portrait Philippe Solers. On va demander cette présentation avant de donner la parole à Philippe Solers et je vous dois quelques explications, ou en tout cas précisions. Après tant d'années de vie commune avec lui, c'est l'amante, l'épouse, la mère, l'écrivain, la psychanalyste, la théoricien de la littérature qui, évidemment, vous parle. Antoine Guggenheim vient de le rappeler avec précision et discrétion. Je lui dis à mon tour parce que j'entends l'intensité de votre présence et de votre écoute. Je ne l'évite pas. Je lui réponds simplement en précisant que si cette cohabitation de nos deux étrangetés, celle de Philippe Solers et la mienne, continue à défier l'épreuve du temps, c'est parce que ça s'écrit différemment et en résonance réciproque. Pourtant, puisque je situe notre pacte à deux dans la logique de ça s'écrit, j'aurais pu très bien décliner la proposition qui m'a été faite de présenter l'enfance et la jeunesse d'un écrivain français, Philippe Solers. Je ne l'ai pas décliné, je l'ai accepté. Et si je l'ai accepté, ce n'est pas seulement parce que l'espace des Bernardins place l'écriture, on l'a entendu, à l'horizon de l'incarnation, que je lis, moi, comme une invitation à dire l'incommensurable intimité de cette expérience qu'est l'écriture comme incarnation. Et ceci à contre-courant de la pupolisation qui, nous le savons que trop, s'exhibe aujourd'hui dans ce qu'ils appellent des éléments de langage. Je suis ici à cause de cela, incarnation contre éléments de langage, mais pas seulement. Je suis ici surtout parce que je suis convaincue que le thème, ou les thèmes plutôt de cette rencontre, enfance, jeunesse, écriture, français, française, loin d'être transparent et encore moins naturel, ces thèmes-là demeurent plus que jamais énigmatiques, scandaleux même, pour cette banalisation des esprits qui nous menace et qui est, à mes yeux, le mal radical. Quand étudiante, que j'étais, a rencontré à mon arrivée en Bulgarie, de ma Bulgarie natale, Philippe Solers, il m'est apparu comme l'écrivain français, et davantage encore le plus français des écrivains français. Cette conviction s'est confirmée et approfondie tout au long de l'évolution de son écriture. Du parc, loi, hache et paradis, à la guerre du loup, une vie divine, la fête à Venise, un vrai roman ou discours parfait. Tant il est vrai que celui qu'on a pu appeler le neveu du Diderot, entendez Philippe Solers, est incorrigiblement français, au sens délié de ce terme que nous a laissé le XVIIIe siècle et cette manière toute française de penser en roman. Je dis roman, et je pense à ce roman français où l'on aime beaucoup et parle tout autant, où l'on dialogue et monologue éperdument dans la tradition de Voltaire et de Stendhal, et où la curiosité et la vivacité encyclopédique et joyeuse donnent au lecteur le goût de Rabelais, de Molière et Watteau, de Fragonard, de Manet, de Cézanne et Picasso, d'Artaud et de Van Gogh, de Mozart et de Nietzsche, de Freud et de Joyce, de Courbet et de Céline. Roman français, comme est français aussi le port de Bordeaux, ce bord de l'eau appelant Venise, tout en s'ouvrant vers l'Angleterre, et où le premier parlement français vote l'émancipation des Juifs, ce qui ne ferait faire oublier que les étoiles jaunes sont apparues sous l'occupation nazie. Vous comprenez que français est entendre chez Solers au sens où l'identité nationale, telle que la construit la grande littérature, et plus que tout autre la grande littérature française, que l'identité nationale est le plus efficace des antidépresseurs. Pourquoi ? Parce que c'est dans l'expérience littéraire, c'est-à-dire dans l'expérience du langage forcément sensible et du récit immanquablement historique. C'est là que l'histoire de la France propose, je le crois, un équivalent du sacré unique au monde. Tous les peuples ont des littératures. Mais c'est seulement en France que la littérature rivalise comme expérience avec celle du sacré. Parce que elle a réussi à faire entendre que l'identité personnelle, sexuelle et aussi nationale n'est pas un culte, que l'identité est une question, une perpétuelle mise en question qui ne cesse de s'écrire précisément. Contre ceux qui revendiquent l'identité nationale comme une protection contre les autres, notamment les migrants, contre ceux qui refusent d'admettre l'importance de l'identité parce qu'il leur manque le courage de la traverser en la pensant, eh bien l'écrivain français, qui est Philippe Solers, mène sa guerre du goût dans un pays qui est celui de la langue française, telle qu'elle s'est forgée dans la longue histoire de ce peuple et tout particulièrement à travers la diversité de ses écrivains. On me dit même, de l'autre côté de l'Atlantique, que Philippe Solers est « too French ». Aujourd'hui, il me semble que l'adjectif français, il est de bon ton de l'éviter. Il paraît que ça sonne nationaliste. Tout au plus, certains se disent-ils francophones. Cela fait plus cosmopolite, bien que postcolonial et victimaire, mais tant pis, ça ira quand même pour cibler la culpabilité d'être français. Rien de tel chez Philippe Solers, auteur des Folies françaises. Rien de tel chez toi. L'enfant et l'adolescent de Bordeaux, que tu aimes revisiter dans tes romans et essais, ne cesse de sublimer, du dedans et du dehors, la mémoire récente ou ancienne, mais aussi l'actualité de cette France dont tu incarnes la musique du verbe et la physique du décor. Pour en rire et en pleurer, avec les grands bordelais, bien sûr, de Montaigne, La Boétie et Montesquieu à Mauriac, mais aussi une pléiade de préférés, Pascal, Saint-Simon, Sade, Le Trianon, Rimbaud, André Breton, Georges Bataille, Paul Morand, ou Sartre, et je n'oublie pas les femmes, Sévigné et même Beauvoir. En ces temps de détresse, ta façon de mener une guerre du goût avec et dans l'identité nationale, à travers et dans la mémoire de sa langue, de sa littérature et de son histoire politique, ça paraît scandaleux. C'est scandaleux, scandaleux. Est-ce même possible ? En te lisant, j'ai le sentiment que tu nous dis « c'est possible » parce que j'ai gardé vivante en moi l'enfance et la jeunesse, précisément les thèmes qui nous réunissent. De telle sorte que ceux qui te lisent ne reçoivent pas ton étrangeté comme un cri de douleur d'une catastrophe totalitaire ou comme l'aveu d'un mal-être psychique, ni même comme le rejet d'une exclusion sociale ou raciale, autant de thèmes dans lesquels se plaît souvent, à mon avis parfois trop, le marketing éditorial. Ton étrangeté à toi, ta dérangeante singularité qui commande ta réécriture de la langue française, nous revient comme celle de l'enfance et d'une jeunesse perpétuelle. Quelle enfance et quelle jeunesse ? Tu nous le diras tout à l'heure lorsque je lirai ou tu liras des extraits, mais je ferai une proposition. L'enfance que tu nous fais lire et rencontrer n'est pas, on s'en doute, la divine innocence de l'enfant Jésus, ni la pureté naturelle de l'enfant rousseauiste. Plus proche de Freud, l'enfant introduit dans tes livres la plénitude des sensations, des douleurs, plaisirs ou maladies, saisies avec un paradoxal mélange de clarté classique qui rejoint la formule hallucinatoire, parce que poétique, jusqu'aux saveurs bordelaises et aux secrets de tes personnages, drôles de personnages, esquissés comme des concepts sensibles, tels les hommes et les femmes de ce sud-ouest français, dans lequel Hölderlin a vu se perpétuer le miracle grec. L'enfant solaire serait-il un chercheur en laboratoire qui préfigure la vile curiosité de l'écrivain pseudonyme, comme Ulysse dans Homère nous dit qu'il est polytropos, c'est-à-dire l'homme aux mille tours, en latin solers, solertis, qui veut dire rusé, l'habile, l'insaisissable. Quant à l'adolescent, il me permet de mieux entendre les ados qui viennent me consulter. L'adolescent solers est un croyant. Ça tombe bien pour les Bernardins. Puisqu'il est en quête d'idéal politique, amoureux, psychique, et puisqu'il croit dur comme fer que le paradis existe, il est forcément en guerre. L'adolescent solaire, c'est un croyant révolté. Il ne cesse de réinventer son paradis. Adam et Ève étaient des adolescents. Dante et Béatrice aussi. Nous sommes tous des adolescents quand nous sommes amoureux. Admirateur de Baudelaire et de Stendhal, tu aurais pu dire, comme l'auteur de La Chartreuse de Parme, « Oui, je reviens à toi, berceau de mon enfance. » Ou, comme celui des Fleurs du Mal, « Le génie n'est que l'enfance nettement formulée. » Mais tu ne fais pas ça, parce que tu ne reviens pas à l'enfance, pas à proprement parler. La littérature, c'est l'enfance retrouvée à volonté, c'est encore Rimbaud et Bataille, c'est pas toi. Tu n'as pas non plus le chagrin voluptueux de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Encore moins la souffrance de Bernanos, qui, je le cite, « une fois sorti de l'enfance, souffre très longuement pour retrouver tout au bout de la nuit une nouvelle aurore ». Au contraire, tu traverses l'enfance sans la quitter, comme le sage taoïste qui prétend être le seul qui se nourrit de la mer. Elle accent grave, évidemment. Parce que tu déplaces ton enfance et ta jeunesse au moment présent, ici même et aujourd'hui. C'est ici et maintenant que tu les revis, enfance et jeunesse, par écrit. Comment ? Mais c'est évident, c'est même la lettre volée, au sens d'Edgar Poe. Le thème est si présent dans tes romans qu'on préfère le censurer, qu'on ne pense pas à lui attribuer l'aisance avec laquelle se perpétuent l'enfance et l'adolescence dans ta réécriture des identités, notamment l'identité française. La lettre volée, c'est le lien à la fois intime et rebelle que le narrateur de ton roman « Femme » entretient avec les femmes et les mères. La perpétuelle curiosité qui l'anime s'enracine dans ta curiosité à l'endroit de l'autre sexe. Et c'est cette curiosité à l'endroit du sexe féminin qui irradie à l'infini chez toi jusqu'à l'être et l'histoire. Curiosité pour la femme, curiosité pour la mère et chemin faisant, l'être et l'histoire. Insatiable point d'interrogation posé à l'endroit du plus grand sérieux, comme s'exprime Nietzsche. Il se cristallise dans ton rire, si sérieux qu'il paraît angoissé, à moins que ce ne soit une révolte respectueuse ou encore un respect incrédule. Et comme personne ne se garde mieux qu'un être qui semble s'abandonner à tous pour mieux se cacher, ton masque d'homme des médias, s'ajoutant à ce rire, abrite la solitude invisible d'un cœur aussi absolu que joueur, conduisant le narrateur d'une vie divine à se vivre comme un alter ego de Nietzsche, précisément. Un des points culminants de cette interrogation portée à l'endroit du plus grand sérieux, dans notre vie réelle cette fois-ci, fut la lecture que tu as faite de Maître Eckhart sur la tombe de ton père, au cimetière de Bordeaux. Voilà encore. Cet événement de lire Maître Eckhart à la tombe de son père éclaire, me semble-t-il, d'une manière surprenante, la tienne, comment tu dénoues le rapport du fils au père par l'écriture. question centrale qu'Antoine de Guénhem a formulée avec force en théologien lisant des livres. Je vais arrêter ici ce canevas d'hypothèses à partir desquelles j'ai choisi quelques extraits d'un vrai roman, Tes mémoires, que je te demanderai maintenant de lire et de commenter. Je vais simplement amorcer les citations, puis je vais te demander de les lire toi-même. Alors, c'est page 19. Mais revenons à la naissance biographique. Elle ne s'est pas faite sans mal, paraît-il. Alors, on lit le paragraphe.
Ce n'est pas une naissance biographique, c'est une naissance biologique.
C'est ce qui est écrit.
Oui, mais j'ai la page sous les yeux.
D'accord.
Donc, tu as transformé biologique en biographie.